Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Désolé pour le bazar là, mais comme je suis en train de déménager le bureau, il me faut un peu de la place pour mettre des tas de choses. 5 sur 5, nickel, on me reçoit. J'ai un épi, mais ça on s'en fout. Un Jérôme en retard. Je suis pas en retard. J'ai commencé à 8h. Il est 8h01. Et vous êtes un peu quand même, un peu. Hein? Voilà. Bonjour à tous en ce vendredi. On commence comme d'habitude en remerciant nos tipeurs du jour. Antoine, Athémis, Adrien Maxime, Fred Fit et Smiley. Smiley. Merci à vous pour votre contribution, contribution sans laquelle nous ne serions pas là. Je rassure tout le monde, le petit vivant. Ah oui, d'accord, oui, je me souviens, hier tu commencerais à 8h30, on serait quand même là. Oui, me donne pas trop d'idées, hein, parce que y a des matins, je commencerais bien à 8h30, hein, voire 9h, hein. Si je pouvais. Par exemple, ce matin, j'aurais bien commencé 1 heure plus tard. Mais je ne peux pas, parce que j'ai une interview tout à l'heure. Donc, on va faire un Texcope danse, mais rapide. Non, pas un Texcope où on danse, un Texcope danse. Voilà. Chut, après, il va commencer à 10h. Oui, non, mais c'est ne me donnez pas des mauvaises idées. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui dans Texcope, dernier Texcope de la semaine, c'est vendredi. Courage à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous regardent en direct, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en replay. J'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer en parlant du fameux article 13 de la loi européenne qui va être voté le 20 juin. Vous avez peut-être vu des vidéos YouTube sur le sujet, notamment celle de Guillaume Slash, que je vous conseille de regarder. Je l'ai tweeté hier, il suffit de me suivre sur Twitter. Bref, je vous expliquerai un petit peu ce que ce projet de loi européen risque de changer dans le droit d'auteur et en quoi ça remet en cause. Nous, on a la neutralité du net, mais ce projet de loi européen risque quand même de mettre à mal la libre circulation des contenus. On parlera également de l'astuce assez simple qu'a Apple emploie pour bloquer les outils de déverrouillage. Il y a quelque temps, je vous avais parlé de ce boîtier noir là, avec deux Lightning qui sort, qui permettait de déverrouiller n'importe quel iPhone dans le monde. Eh bien, comment Apple réussit à se sortir de ça et à bloquer complètement cet appareil? On parlera très rapidement, ça sera une brève, mais la suite, peut-être la fin pour Steam Link. Qui a priori fait un update sur son appli iOS qui devrait sortir et comment ils sont arrivés à un accord avec Apple et en quoi c'est aussi peut-être un bon signe pour l'appli Shadow. Je dis ça, je dis rien. On en parlera tout à l'heure. On parlera de Fortnite. Vous n'en avez pas assez de Fortnite. Soit je vous parle de Bitcoin, soit je vous parle de Fortnite en ce moment. Fortnite, ça sera une brève également. Juste pour dire 2 millions de téléchargements en 24 heures sur la version Nintendo Switch. De record en record, Fortnite, c'est l'invasion du monde vidéoludique. On parlera de Snapchat. Snapchat, on en avait déjà parlé, mais là, on rentrera peut-être un tout petit peu plus dans le détail de SnapKit et notamment du bouton login with Snapchat et en quoi, par exemple, il sera différent de login avec Facebook et comment il se positionne et en quoi c'est assez malin de la part de Snapchat. Peut-être le bon moyen de récupérer ou en tout cas d'arrêter de perdre des utilisateurs. Et on terminera en parlant de notre moteur de recherche favori, Sisi, Quant. Quant qui change complètement de dimension. Beaucoup d'annonces autour de Quant pour devenir vraiment le Google européen. On en parlera. Est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour ça? Mais en tout cas, les produits que Quant lance vont permettre d'être une alternative très intéressante et assez complète. À toute l'utilisation qu'on a de Google actuellement. Donc, on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de ce Techscope. Très heureux de vous accueillir en ce vendredi. J'espère que vous avez la patate en cette fin de semaine. Si ce n'est pas le cas, une bonne gorgée de ce que vous avez dans la tasse, je ne veux pas savoir. Ah, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans la mienne. Ah, ah. Le mec qui se fait avoir en plein live, qui sort sa petite flasque, tu sais. Blip, blip, blip. Non, non. Non, non, non. Hors de question. J'ai tendance à avoir des problèmes de focus. Imaginez si en plus je buvais pendant l'émission. Alors là, mon bon monsieur, ça serait la fête au slip. Allez, on commence en parlant de fête au slip. On va parler du projet de loi européen qui va être voté le 20 juin. Donc c'est demain. Enfin, pas exactement demain, mais c'est très bientôt. Et en quoi il risque de changer effectivement la face du web et en quoi il peut être dangereux ce projet de loi européen. Parce que nous, on se dit, ouf, d'un côté, on n'est pas comme aux États-Unis qui viennent de perdre la protection de la neutralité du net, mais ça ne veut pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes européens, puisque cette loi qui va porter sur une mise à jour de la directive européenne sur les droits d'auteur, risque de mettre gravement en péril la libre circulation des contenus. Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux créateurs de contenus, ce que je vais dire. Ça s'adresse à vous, parce que vous êtes des consommateurs de contenus, pour la plupart d'entre vous, et ça va conditionner le contenu que vous pourrez voir aussi. Puisque, effectivement, ce texte vise à moderniser les mécanismes de la propriété intellectuelle, afin de rééquilibrer la répartition de la valeur entre les ayants droit et les plateformes qui distribuent les œuvres sur Internet. On se dit, ah ben c'est bien. Donc par exemple, les youtubeurs vont moins se faire démonétiser. Il y aura quelque chose d'un peu plus juste, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple sur YouTube, les ayants droit ont quand même presque les pleins pouvoirs. Vous avez vu, je pense, si vous suivez régulièrement YouTube, toutes les histoires de démonétisation que subissent les youtubeurs aujourd'hui, ça vient de là. Et je vous avais souvent expliqué qu'une vidéo YouTube, même vous mettez un extrait d'une seconde, s'il est revendiqué par un ayant droit, cet ayant droit, il est plus puissant que vous, hein, généralement, vous, petit créateur de contenu, eh bien, tout l'argent que cette vidéo récolte en publicité, tout l'argent sur l'ensemble des secondes de cette vidéo revient à l'ayant droit. Et ne revient pas. On pourrait se dire le truc équitable, c'est que on ferait un ratio de cette seconde de contenu utilisé pris à un autre, un extrait d'un truc, et on ferait un ratio et on lui reverserait l'argent de ce ratio. Non, là, une vidéo qui est démonétisée, dans la plupart des cas, ça veut pas dire qu'elle ne touche plus d'argent, ça veut dire que l'argent va à l'ayant droit qui a revendiqué l'extrait dans cette vidéo. Je vous explique ça pour bien vous expliquer comment ça marche. C'est dégueulasse, mais ça risque de devenir pire, Bruce. Hein ? C'est encore pire ce qu'ils sont en train de nous prévoir. Parce que justement, l'article 13 de cette directive demande aux gros fournisseurs de contenu de prendre des mesures pour assurer les fonctionnements des accords conclus avec les titulaires de droits concernant l'utilisation de leurs œuvres. Des plateformes comme YouTube, SoundCloud ou Wikipédia seraient ainsi tenues de surveiller en amont les téléchargements des utilisateurs pour détecter toute violation du copyright grâce à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus. Vous savez, aujourd'hui, YouTube a un truc qui s'appelle le Content ID, qui identifie automatiquement et qui sniffe toutes les vidéos pour voir s'il n'y a pas du contenu dont l'ayant droit a revendiqué la paternité. Et dès qu'il le trouve, et c'est tout le problème du système, le créateur de contenu qui aurait pris un extrait d'ailleurs, il est coupable et c'est à lui de faire reconnaître qu'il est innocent. Donc en gros, et c'est tout le fond du problème en tout cas sur YouTube, c'est que la vidéo elle est démonétisée et remonétisée chez l'ayant droit jusqu'à ce que le créateur de contenu ait pu apporter la preuve qu'il avait le droit d'utiliser ce contenu. Donc autant dire que les premiers jours de vue d'une vidéo, le temps que tu résolves le problème, tout le fric va dans la poche de l'ayant droit. Et c'est ce qui se passe sur énormément de vidéos aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un gros problème. Donc, il ne faut pas confondre une vidéo démonétisée, c'est-à-dire quand YouTube dit « Cette vidéo ne peut pas avoir de publicité parce que son contenu ne plaît pas aux annonceurs en général. » Ça, c'est un premier cas de démonétisation. Mais on l'appelle pas démonétisation, mais on va dire la remonétisation ou la ou le re je sais pas quoi. C'est un problème qui touche énormément de créateurs de contenu. Ça veut dire que leur argent part chez un autre. Et le truc, c'est que ces moteurs, le moteur de YouTube de Content ID, c'est un algorithme. C'est un algorithme bête et méchant. Donc, par exemple, l'utilisation d'extraits dans le cas d'une parodie, d'un mème, détourner une chanson, mettre un extrait de film pour ponctuer quelque chose dans un vlog, des choses que vous voyez souvent sur YouTube, il n'arrivera pas à comprendre. Lui, il voit 2 secondes de la musique de Star Wars, et dire, ok, bah non, là, le mec, il a utilisé Star Wars, ça va à Disney, boum, remonétisation Disney. Il voit un extrait de film de Ben-Hur parce que Jérôme a sorti une bonne blague en disant « Arrête ton char !» et boum, je mets 2 secondes de Ben-Hur. Boum, il dit « Ah non, t'avais pas le droit, machin. » C'est à nous de reconnaître, même si on a signé un accord avec le producteur de ce contenu-là pour utiliser son extrait, si il a réglé trop fort son Content ID, le créateur de contenu, et ça, c'est arrivé à beaucoup de YouTubeurs qui avaient conclu un accord pour utiliser un extrait, mais le moteur Content ID, il n'est pas au courant, donc il remonétise la vidéo malgré l'accord. Et le temps que le créateur dise « Mais attends, j'ai un papier signé, mec !» le moteur dit « Ah, ok, bon, bah, ok, l'argent va à toi, mais c'est trop tard. T'as perdu toutes les vues des premiers jours. » Bon, là, je parle beaucoup de YouTube, mais sachez, c'est là que ça devient grave, c'est que ce texte demande finalement à Wikipédia, SoundCloud et tous les autres qui ont des créateurs de contenu d'avoir des moteurs de Content ID comme celui de YouTube, c'est-à-dire que le problème risque de s'étendre. Alors, je sais, je vois que Robin le dit, c'est normal que l'auteur d'une œuvre revendique ses droits, et je suis le premier à défendre ça, parce que moi-même, on me pique des extraits. On me pique des extraits de mes vidéos et on les publie sans mon accord dans d'autres vidéos ou à la télé ou dans le journal de 20h. Et ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Des télés ont piqué des extraits de mes émissions sans me demander le moindre de mon accord, en effaçant mon logo et sans me citer. Il faut savoir que normalement, on a quand même un droit à la parodie, on a un droit à l'information, on a le droit quand on parle d'un... Comment voulez-vous faire la critique d'un film sans montrer des extraits au moins de la bande-annonce ? Comment voulez-vous faire une critique de jeu vidéo sans le montrer ? Or, un jeu vidéo et un film, c'est une œuvre. Donc, vous voyez, je suis 100% d'accord que on ne doit pas pomper l'intégralité d'un film et de le mettre sur YouTube et de le monétiser et de voler l'argent aux créateurs de contenu, d'une manière générale. Mais il faut qu'on ait un système qui permette le droit à l'information et à la libre circulation des informations. Et un contenu, tout artistique qu'il soit, est une information. Et là, ça veut dire qu'on n'aura plus le droit d'en parler. Déjà, si vous êtes un fin observateur de YouTube, vous avez constaté quand même que dans les types de sujets qui sont abordés par les YouTubeurs, ça commence à se rétrécir. Parce que moi, j'en parle avec des gens qui font du jeu vidéo, ils en ont marre. Ils ne peuvent monétiser aucune de leurs vidéos. Donc, ils ne peuvent pas construire un écosystème qui leur permettrait de vivre de leur travail d'information. C'est un petit peu comme si, imaginez, un journaliste qui travaillait dans la presse, il n'avait pas le droit de montrer des images d'un film dont il fait la critique. Et c'est quand même un problème assez grave. Et le droit à la parodie, ça veut dire que tous les détournements de chansons, tous ces mèmes que vous adorez, hein, où on utilise des extraits de films pour faire dire d'autres choses, des choses type le grand détournement, seront impossibles à faire. Parce que là, vous allez me dire, mais il suffit d'aller demander les droits aux gens, mais vous ne vous rendez pas compte le boulot et le temps que ça représenterait. Avec des infrastructures comme une chaîne YouTube, où on travaille généralement seul, on passerait 99% de notre temps à faire des mails pour demander des droits d'utilisation d'extraits. Non, Yves Castel. Alors, dans les faits, effectivement, tu peux dire, ah, mais tu as quand même le droit. C'est juste que tu n'as pas le droit de gagner de l'argent en citant un extrait. Mais non, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut bloquer ta vidéo. Et ça arrive aussi. Ça dépend comment l'ayant droit a réglé son Content ID sur YouTube. Donc, imagine, en fait, le fond du problème. Et encore une fois, je suis pour que les ayants droit aient des droits. Moi, le premier, je suis un ayant droit. Les vidéos que je crée, les images que je me casse le cul à tourner, etc., elles sont à moi. J'ai pas envie qu'un autre YouTuber prenne toutes mes vidéos de macro, tout ce qu'on passe du temps à tourner, parce que lui, il a la flemme de faire ses plans, et qu'il les utilise dans sa vidéo pour parler du même produit. Donc, moi aussi, je suis un ayant droit. Donc, je me place du côté des ayants droit. Mais aujourd'hui, la balance est déséquilibrée et risque de l'être beaucoup trop. Les ayants droit ont beaucoup trop de pouvoir et plus ils sont gros, plus ils ont du pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de mettre un extrait un tout petit peu plus long d'un film. Vous verrez que très rarement un extrait de Star Wars. Et en plus, s'il y en a un, dans le meilleur des cas, le youtubeur, c'est vrai. Soit il a dit, bon, bah, je m'en fous, tout le fric partira à Disney de ma vidéo. Soit il a réussi à conclure un accord pour avoir cet extrait. Mais vous ne vous rendez pas compte des démarches. C'est ultra chronophage, quoi. Alors, vous allez me dire, certains youtubeurs y arrivent. Mais c'est souvent des youtubeurs qui vont avoir toute une équipe. Donc des gros youtubeurs qui ont toute une équipe avec eux, avec des gens qui vont effectivement conclure tous ces accords avant. Mais ça veut dire que un nouveau créateur sur YouTube ne pourra pas, parce qu'il n'a pas de quoi payer toute une équipe juridique derrière, ne pourra plus faire des mèmes, des parodies et des choses comme ça. Merci Arnaud pour ton super chat. Peux-tu nous passer Star Wars en live? Le problème, c'est que si je passe Star Wars en live, je risque beaucoup plus gros. Un vrai strike, un drapeau rouge. Il faut savoir quand même sur YouTube, tu te prends trois drapeaux rouges, ta chaîne, elle est radiée de la carte. Ben, les sources, Alun, les sources, elles sont disponibles sur le flipboard. Tous les articles dont je parle sont présents sur le flipboard de Nowtech, si tu veux voir les sources. Ça m'arrive de les citer. Là, par exemple, c'est un article de... Le truc, c'est que je regarde pas vraiment d'où ça vient, généralement, mes articles. Enfin, pas toujours. C'est RTL News, dans le flux de données RTL News. Voilà, j'ai pris cet article. Mais vous voyez, moi, dans mes vidéos, c'est bien pour ça que la plupart du temps, 99, on va dire sur l'ensemble des vidéos que j'ai créées pour la chaîne, 99,9% des images que vous voyez, c'est moi qui les ai créées. Et ça demande énormément de temps. Plutôt que de prendre une belle image de clavier, même venant du constructeur, parce que certains constructeurs sont assez cons pour déposer du Content ID sur leur putain de publicité, ça m'est déjà arrivé. Donc je suis très méfiant quand j'utilise des images d'un constructeur, faut vraiment que j'ai pas le choix, et je retourne toutes les images. Merci Troll et Zunart, allez, on tente d'arriver à 100. Non, je fais pas d'incitation aux dons, parce que je trouve ça un peu putassier. Vous faites des dons, enfin vous faites des super chats si vous avez envie, mais pas de compétition pour arriver à... Je ne veux pas conditionner les super chats. Ça serait trop facile de vous dire je baisse mon froc si on arrive à 100 euros, ce que je ne ferai pas. Voilà. D'abord parce que j'ai pas envie de baisser mon froc, et deuxièmement parce que je n'ai pas à vous inciter. Je ne sais pas si c'est complètement illégal, mais je trouve ça immoral en fait. Et toutes ces vidéos où, si on arrive à 10 euros en super chat, ma petite sœur va enlever sa bretelle de soutien-gorge, ça me fait gerber. Et si vous regardez ce type de contenu, partez! Je ne veux vous, je ne vous, je veux pas que vous soyez dans Techscope. Vous ne méritez pas. Alors, moi, c'est des contenus. Je sais, hein, ça marche super bien, hein, ces vidéos-là et ces trucs-là. Mais c'est pas parce que ça marche bien que j'ai envie de le faire. Hein. De toute façon, si je voulais faire un truc qui marchait bien, je ferais peut-être pas ce que je fais d'une manière générale. Vous avez tous vu là, ces vidéos, un kill à Fortnite et ma copine ou ma petite sœur enlève un vêtement. C'est à gerber, c'est du vomir. Berk, ne regardez pas ça. Si ces trucs-là existent, c'est parce que vous regardez. Oui, toi qui as regardé en te disant « je regarde par curiosité pour me moquer de ce type de contenu », eh ben, c'est grâce à des mecs comme toi que ces contenus-là existent. Bref. Non, ben, la guéguerre, c'est vrai que je l'avais fait. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai arrêté de le faire. Parce qu'effectivement, j'ai réfléchi derrière que c'était de l'incitation. Alors, c'était rigolo, je dis pas. Mais c'était de l'incitation au don et je n'ai pas à le faire. J'apprends de mes erreurs. Bref, allez, je suis quand même en partie dans les graviers à la fin, mais allez voir la vidéo, je vous conseille quand même, de Guillaume Slash sur le sujet. Il vous donne justement tous les liens pour agir contre cette loi. Je vous invite à le faire, à envoyer au moins un mail ou un tweet à votre eurodéputé pour que ce vote n'est pas encore gagné. Hein. Il leur faut... Il faut qu'il soit voté à 65% de la population européenne. Il faut qu'il rassemble au moins 55% des voix des États membres, qui représentent 65% de la population européenne. Donc, moi, je vais effectivement envoyer un mail, voire appeler, comme le conseil Guillaume Slash, un député européen. Parce que je vous rappelle que ces gens-là sont censés nous représenter et représenter ce qu'on a à dire. Donc ils ont des services qui sont là pour recevoir vos coups de fil, vos tweets, vos mails. Mais un coup de fil, c'est ce qui a le plus de poids. Allez voir la vidéo de Guillaume, il vous explique tout ça. Et je vous conseille d'être vent debout contre ce projet de loi européen. Parce que vous risquez, vous, en tant que consommateur de contenu, voir le contenu s'appauvrir de petit à petit, si on n'a plus le droit à l'extrait pour des parodies, si on n'a plus le droit à l'extrait pour l'information, même quelque part, Techscope, je ne pourrais plus le faire, dans l'absolu, si mon business model était lié à la monétisation des vidéos. Mais là, je rentre dans les subtilités. Je vous rappelle qu'un placement produit, vous avez le droit de parler de placement produit uniquement si je suis payé. Sinon, ce n'est pas un placement produit, ce n'est pas payé. Donc, Guillaume Sage, jusqu'à preuve du contraire, ne m'a pas payé. Je devrais peut-être lui demander de me payer, mais ça, c'est un autre problème. Oui, l'Europe peut faire quelque chose, Bruce. On le voit bien, avec la RGPD, on a fixé nos règles de l'utilisation de l'Internet vis-à-vis des gros groupes américains. Oui, l'Europe a suffisamment de muscles, entre guillemets, pour imposer quand même des directives et des lois à des grands groupes américains. On va pas non plus se faire marcher sur les pieds et dire « amen » à tout ce qui vient des États-Unis. Et tant mieux. Moi, par exemple, je suis vraiment content d'être en Europe quand je vois ce qui se passe aux États-Unis pour la neutralité du net, quoi. Mais, Trolley Zenart, déjà, placement produit, tu me dis d'un point de vue de la loi. Genre, tu vas me sortir des textes de loi. Placement produit... ça ne serait pas ça, ça serait plus une vidéo sponsor. Déjà, il faut utiliser les bons termes. Le placement produit, ça serait plus « Oh, il fait de la pub pour No Watch TV !» Et je vous dirai rien, je boirai négligemment ma tasse, comme ça. Ça, c'est un vrai placement produit. Sachant que ce produit n'existe plus. Hein. Donc, venez pas me péter les couilles non plus. Mais quand même, vis-à-vis de la loi, si tu veux me faire un procès, hein, au pénal, eh bien, tu n'auras aucun dossier puisque je ne me serais pas fait payer par la marque. Donc tu pourras dire, oui, légalement, il y a un placement produit, c'est dégueulasse. Oui, mais moi j'arriverai, monsieur le juge, il est bien gentil, il a trollé Zenart de m'attaquer. Mais je n'ai reçu aucun paiement de la part de la marque. Donc il est où le placement produit? Il est où le problème? C'est juste que je suis trop compte pour ne pas me faire payer pour un placement produit. Ah ouais, ça c'est... Les vieux de la vieille reconnaîtront. Ah ouais, non, gros clash, non. Mais c'est vrai que vous, public, vous êtes un peu prompt à dégainer le placement produit. Or, bien souvent, vous vous trompez de terme. Je vous avais déjà expliqué ça. Allez, on continue, on va parler rapidement de Steam Link. Steam Link, on avait parlé des problèmes qu'ils avaient avec les règles d'iOS. Ah oui, j'ai cité le nom de Troll Eisenhardt, donc placement produit aussi. Tu dois me payer, Troll Eisenhardt. Mais il a payé d'ailleurs. Ouh, je suis dans la merde, il a fait un super chat. Ça devient compliqué. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de faire l'article. Steam Link, j'en avais parlé la semaine dernière. Steam Link, vous savez, c'est ce système qui va vous permettre de streamer les jeux Steam, notamment sur vos tablettes et vos smartphones iOS. C'est pas exactement comme Shadow, Steam Link, parce qu'il faut être en réseau local, mais bon, en gros, ça vous permet de streamer vos jeux sur d'autres devices. Steam, on dit « Oh, Apple méchant, ils interdisent notre application, ils veulent pas qu'on puisse streamer des jeux sur iOS, machin. » Ce à quoi Apple avait dit « Non mais arrête de faire ta causette là, tu vas te calmer un petit peu Steam. Hein. C'est pas du tout pour ça qu'on a interdit ton appli, c'est qu'elle est juste programmée avec les pieds. Il y a des trucs qui ne sont pas en accord avec les guidelines pour sortir des applications iOS. » Tu mets ouais d'accord ok et après Apple ils changent en douce les conditions et on a vu des conditions de release d'app avec des trucs où on s'est dit mais attends ça veut dire qu'en gros on pourra jamais avoir une application qui stream des jeux vidéo émanant d'une autre plateforme à partir du moment où on peut pas les acheter directement sur l'App Store les jeux. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en gros, dans les guidelines Apple, et ça, ça existe depuis l'App Store, Apple ne veut pas que vous puissiez acheter du contenu hors sa plateforme, parce qu'ils veulent leur 30% de marge sur ce que vous vendez dans votre application. Soit les 30% sur l'application, soit les 30% sur ce que vous vendez. Un exemple type, c'est Hearthstone. Hearthstone, vous avez remarqué, quand vous achetez vos cartes dans l'appli iOS pour iPad ou iPhone, les cartes coûtent plus cher que si vous les achetez sur Internet. C'est parce que Blizzard, eux, ils ont fait « Ok, Apple veut ses 30%, on rajoute les 30% si les gens veulent acheter dans l'appli iOS. » Voilà, juste pour vous expliquer le problème. Eh bien, a priori, ils seraient arrivés à un accord, Steam Link et Apple. Et a priori, merde, comment ils ont fait? Il y aurait donc un Steam Marketplace qui va a priori permettre l'achat de jeux Steam dans le jeu. On verra bien, à mon avis, ils seront majorés de 30% du coup. Oui, bah YouTube, les super chats sur iOS sont plus chers que les super chats si vous les faites sur Android. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que, alors, je vais en savoir un petit peu plus, je pense, aujourd'hui, puisque je vous le spoil, mais je vais interviewer Emmanuel de Shadow aujourd'hui sur des choses intéressantes, on va dire, et j'en saurai un petit peu plus sur l'appli iOS, pourquoi elle ne sort toujours pas, alors que la bêta, elle est bien solide, là, du Shadow. Moi, ça fait plusieurs mois que je peux lancer mon Shadow sur mon iPad ou sur mon iPhone. Non, Emmanuel Fein de Shadow, enfin de Blade, que je vais interviewer ce matin. Donc je lui poserai la question, mais je pense que du coup, si Steam Link sort, l'appli Shadow devrait pouvoir sortir. Ça devrait être dans le pipe. Mais je pense qu'ils auront ils ont, à mon avis, ils ont le même problème. Sauf que c'est un petit peu différent pour Shadow, parce que Shadow ne te vend pas vraiment des jeux. Shadow te vend un abonnement à un PC, en fait. Mais je pense qu'Apple a dû leur dire, il faut que les gens puissent prendre l'abonnement à Shadow dans l'application Shadow. Donc, si vous voulez des Shadow à plus 30%, vous pourrez les acheter sur iOS. Je pense que ça va être ça. Bref, bonne nouvelle, on verra. Parlons un petit peu de Fortnite. Le jeu des petits et des pas grands. C'est vrai qu'il y a un peu une ambiance de cours d'école hein, dans Fortnite. Hein. Moi, j'avoue que je me suis remis à... J'ai joué un peu à Fortnite, mais en fait, ça m'a plus donné envie de me remettre à Overwatch que de continuer à Fortnite. C'est pas mon type de jeu. Je suis pas fan. C'est pas mal, hein. C'est sympa, hein, Fortnite, quand même. C'est bien foutu, très bien réfléchi. Pour moi, le succès de Fortnite vient bien évidemment de son côté gratuit, mais aussi quand même de son game design, qui est pas mal fait. Comment se finance Fortnite? Il gagne une thune, Oasis. Il gagne plus de thunes qu'aucun créateur de jeu n'a jamais eu. Parce qu'effectivement, il suffit qu'à peine 1% de l'ensemble des joueurs de Fortnite achètent des danses, achètent des trucs, tous ces trucs de... pour qu'ils gagnent énormément d'argent. C'est le business model du freemium. Le freemium, ça permet de toucher beaucoup, beaucoup plus de monde qu'un jeu payant, mais genre un rapport de 1 à 10. Et derrière, c'est comme Candy Crush ou tous ces trucs-là, ils ont fait des fortunes sur ce qu'on appelle le 1%. Quand un jeu comme ça arrive à ce que 1% des gens qui l'utilisent payent, tu gagnes énormément d'argent, en fait. C'est pas si débile que ça. Moi, je sais que les freemiums, j'ai... En fait, moi, j'ai une règle d'hygiène financière très simple par rapport aux freemiums. Quand j'essaye un jeu qui est gratuit avec un modèle freemium, si au bout de 3 mois, je continue à l'utiliser, je commence à m'acheter des trucs. Ne serait-ce que pour soutenir les développeurs. Parce que c'est un jeu que j'utilise. Mais je me donne 3 mois où je profite à fond du gratuit. Si au bout de 3 mois, je continue à jouer à ce jeu, je m'achète des trucs, quoi. Parce que c'est normal pour moi. Et j'aime bien en plus la notion de ne pas être obligé de payer. C'est con, hein, mais moi, je suis quelqu'un comme ça. Moins tu m'obliges à payer, plus j'ai envie de payer, en fait. Si le produit est bon, hein. Si le produit est bon, je mets assez facilement la main à la poche, même si c'est pour m'acheter un slip avec des champignons dans le jeu vidéo, quoi. Je m'en fous. Moi, je le vois plus comme un soutien aux développeurs et à ceux qui ont fait ce jeu, quoi. Parce que je sais que rien n'est gratuit. Bref, en tout cas, c'est pas de ça dont on voulait parler, mais juste pour vous dire, Fortnite continue son carton plein. Puisque aujourd'hui, il a en 24 heures eu 2 millions de téléchargements de Fortnite sur sa version Nintendo Switch. C'est absolument énorme hein, en 24 heures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Fortnite peut franchir la barre, allègrement la barre, des 125 millions de joueurs de Fortnite dans le monde. Alors, faites 1% de 125 millions de joueurs et vous mettez même 1 euro derrière. 1% de 125 millions. Ça fait pas mal d'argent. Hein, vous voyez? Certains ont déjà des champignons dans le... Prenez pas tout ce que je dis au sens littéral. Hein, vous voyez comment on fait... Je pense que j'ai répondu à ta question, comment on fait de l'argent avec du gratuit, quoi. Ouais, bah, aujourd'hui, c'est le jeu vidéo le plus profitable au monde, hein, Fortnite. Hein. J'ai pas leur compte, mais on en avait parlé. Hein. Ils ont fait un carton absolu, notamment en sortant la version iOS. Et il faut savoir qu'ils sont à 125 millions de joueurs, mais cet été arrive la version Android de Fortnite. Et quand on voit comment la version iOS a cartonné et la maille qu'ils ont réussi à se faire, le fric qu'ils ont réussi à se faire avec la version iOS, parce que ça a ajouté une grosse population potentielle de joueurs, quand ça va arriver sur Android cet été, ça va faire pas mal. Ils gagnent plus que 120 millions, parce que les gens donnent généralement plus qu'un euro, hein, quand ils s'achètent des trucs sur Fortnite. Donc, ouais, c'est pas, ça va. Vous inquiétez pas, hein, ils font pas des jeux gratuits juste pour vous faire plaisir, hein, et pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. iOS, c'est l'effet de mode. Oui, peut-être, mais ça a amené des nouveaux gens sur Fortnite qui ont peut-être commencé à jouer sur iOS et qui se sont aperçus qu'il valait mieux jouer après sur leur ordi. C'est pas... En fait, Fortnite, ils s'en foutent complètement d'où tu joues. Ce qu'ils veulent, c'est que tu joues. Et qu'au bout d'un moment, tu deviens tellement addict que tu peux pas résister à t'acheter le truc pour être plus joli ou avoir plus la classe ou ce genre de truc. Et les gens qui me disent « c'est débile de claquer pour s'acheter une danse ou une coiffure de couleur sur Fortnite », c'est comme si vous me disiez que c'était débile de s'acheter des vêtements. On devrait tous porter un t-shirt gris, un pantalon gris, des baskets grises et tout le monde la même couleur de... C'est comme si vous me disiez que finalement les fringues ça servait à rien qu'ils soient variés. Alors je sais que certains d'entre vous qui sont des gros nerds rêveraient d'un monde où tout le monde s'habillerait avec un t-shirt gris, un pantalon gris et des baskets grises. Je m'adresse pas à vous, vous êtes perdus pour la mode. Ben si, rien à voir. Si, ça a tout à voir. Simplement, tu es dans un environnement virtuel et tu t'achètes du cosmétique pour être un peu différenciant dans ton monde virtuel. Mais à part le fait que ça soit virtuel, c'est exactement la même chose que tu fais quand tu t'achètes des vêtements avec, avec de la couleur, des trucs pour t'habiller. Mais là, c'est virtuel. Il n'y a pas tant de différence entre le virtuel et le réel à ce niveau-là. Parce que finalement, c'est toujours l'humain. Virtuel et temporaire. Mais parce que tes vêtements, ils sont infinis. Tous les vêtements que tu as achetés, tu les as encore. Il n'y en a pas qui sont passés à la corbeille. C'est exactement la même chose. Et arrêtez de trop différencier virtuel et réel. C'est toujours un humain qui joue. Donc, ça fait appel à ses instincts humains. Il a envie de s'acheter un t-shirt pour ne pas ressembler à tous les autres. Bref. Bref, bref, bref. En tout cas, qu'on aime ou pas Fortnite, on ne peut négliger le phénomène vidéoludique. C'est un raz-de-marée autour de Fortnite. On ne peut plus parler de mode passagère, hein, là, quand même, pour Fortnite. C'est un gros, gros rouleau qui commence même à inquiéter le reste de l'industrie vidéoludique parce qu'aujourd'hui, les gens ne jouent plus qu'à Fortnite et du coup, ils n'achètent pas d'autres jeux. Et ça, c'est un problème. Ça avait été le même problème rencontré par World of Warcraft à une époque, à la grande époque de World of Warcraft où énormément de gens jouaient. Ça avait fait un petit peu de mal au reste de l'industrie vidéoludique parce que moi, je sais que, par exemple, pendant 5 ans de ma vie, le seul jeu vidéo auquel je jouais, c'était World of Warcraft. Je ne faisais que ça. Ça avait aspiré tout mon temps vidéoludique, et d'ailleurs, pas que mon temps vidéoludique. Ça m'avait aspiré une bonne partie de mon temps de loisir. World of Warcraft, peut-être pas pendant 5 ans, mais on dirait que j'ai eu 2 ans bien intenses. C'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. On continue. Comme moi avec Battlefield. J'ai tellement envie d'y rejouer. Ah non, moi, je retouche plus de toute façon à ce type de jeu, genre waouh. Parce que je sais que je replongerai très vite, quoi. C'est un danger. Non, tu n'es pas... C'est comme tout. Dès que tu en abuses, ça peut être dangereux. Donc, oui, des esprits fragiles comme des adolescents peuvent se perdre dans les mondes virtuels pour éviter de se confronter à la réalité de leur bouton d'acné. Un adulte qui a des tendances dépressives et qui a du mal à se confronter à la réalité peut se perdre, mais au même titre qu'il pourrait se perdre, tu sais, les romans sont addictifs, la télé est addictive, tout ce qui te permet de fuir ta réalité un petit peu trop peut être dangereux. Et je pense pas que... Alors certes, les jeux sont designés pour être addictifs, mais un roman aussi, certains types de romans, l'écrivain va conditionner son écriture pour que tu aies envie de tourner la page ou que tu achètes la suite. C'est pareil. Le sexe est addictif, exactement. Le World of Warcraft de 2018, c'est quoi pour toi? Bah, en termes de phénomène vidéoludique, ça serait Fortnite. Mais après, c'est pas du tout le même type de jeu. TechScope est addictif. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous fais des cliffhangers tous les matins pour que vous restiez scotché, en fait, sur le live. Je suis votre rail de coke. Je suis votre pilule d'ecstasy. Si on lançait des pilules d'ecstasy, on les appellerait Iguane sur X. Prends un Iguane sur X. Tu vas voir, ça fait pouah! Arrête, faut que je bosse. Ma perte de temps. On va pas faire un débat sur les jeux vidéo. Devenons pas des vieux cons. Oui, ça peut être une perte de temps. Oui, ça peut entraîner des excès. Mais le jeu vidéo, moi, je suis désolé, c'est quelque chose qui m'a construit dans la vie. C'est des choses où j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et sur les autres. Des jeux vidéo en collaboratif. Peuvent renforcer des skills en termes d'équipe et de tes interactions sociales. Et non, ça ne te rend pas forcément asocial, autiste et tout ça. Parce que, effectivement, comme tu le dis, Florian, à ce moment-là, tout est une perte de temps. Tu sais, il y a une époque où on disait que lire des livres, c'était une perte de temps. Je veux dire, au Moyen-Âge, c'était bien plus rentable quand même d'aller labourer le champ ou d'aller trucider des infidèles que de passer ton temps là à te distraire en lisant des livres. Et dire que le jeu vidéo est une perte de temps, c'est dire déjà étymologiquement que le jeu est une perte de temps. Non, mais c'est des débats intéressants, je sais, on s'en fout du focus. C'est dire que le jeu n'est que trivial. Or, moi, je pense fondamentalement que la notion de jeu, de ludicité, est hyper importante dans l'évolution des êtres humains. On ne peut pas perdre du temps, on l'aurait perdu où? Ça veut dire qu'on pourrait le retrouver, c'est compliqué. On vient de faire un nœud au cerveau d'Albert ce matin. La photo, mais c'est une perte de temps, monsieur. C'est de la perte de temps, c'est trivial tout ça. Pas très productif. Bon, bref, allez, je renchaîne. Il y a encore deux articles et il faut qu'on y aille. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le signe de Chirac. C'est pas grave. Parlons de Snapchat. Snapchat, ça y est, ils sortent le Snapchat Kit. Le Snapchat Kit, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont vous permettre notamment de partager les stories Snapchat beaucoup plus facilement sur d'autres plateformes, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus, hein, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Eh bien, ce qui nous intéresse le plus, c'est le gros bouton jaune, Login with Snapchat. Ah, dites, oui, bon, moi je préfère me loguer avec Facebook. Pourquoi je me loguerais avec Snapchat? Eh bien, parce que Snapchat va protéger ta vie privée, monsieur. Et oui, c'est un bouton qui ne prendra que ton pseudo, que à la limite ta photo, pour le service auquel tu te logues, mais qui n'aura pas, en tout cas, c'est ce que nous affirment les gens de chez Snapchat, ils n'auront pas du tout accès à tes informations, comme ton email, ton numéro de téléphone, ton sexe, ton âge, l'endroit où tu es, qui tu follows et qui te follow. Ces informations-là ne passeront pas. Alors que, j'espère que vous étiez au courant, quand vous faites un login avec Facebook, sur n'importe quel service, Facebook, il fait hey, il y a un tel là, il vient de chez nous là. Tiens, je te donne sa fiche d'identité. Et boum, toutes ces infos sont transférées au service auquel vous vous connectez. Vous le saviez ça dans la chatroom quand vous loguez avec Facebook? Et avec Google, c'est pareil. Moi, c'est pour ça, quand vous avez le temps, surtout un service un peu chelou, il vaut mieux vous loguer avec une identité que vous aurez créée sur le service même et non pas se loguer avec Google ou avec Facebook. Alors, je sais, hein, c'est pratique. Moi aussi, hein, ça m'arrive de le faire parce que j'ai la flemme de retaper, de dire qui je suis, où j'habite, machin et tout. Bon, après, il y a quand même des formules, des trucs de remplissage automatique qui sont assez efficaces. Ben c'est bien pratique, login de Facebook et de Google. Mais Michel, tu es conscient que chaque fois que tu utilises ça, il transfère tes données au service auquel tu te logues. C'est faux, tout n'est pas partagé, on peut choisir. Oui, ok, mais qui le fait de cocher et de décocher les cases? Et est-ce qu'on a été informé au début? Alors, ok, tu veux le prendre comme ça? Est-ce que tu as été informé au début, la première fois que tu as utilisé un login de Facebook ou de Google, de ce qui se passait? Est-ce que tu as été informé d'une manière claire? Toi qui n'auras pas lu les conditions d'utilisation? Bref, tout ça pour dire le positionnement de Snapchat. Et de faire tout l'inverse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous ferait les croire? Ce à quoi je dirais rien. Mener l'enquête. Il faut faire confiance aux journalistes, aux vrais, hein, pas les vlogueurs ou les youtubeurs qui sont que des mecs avec des vidéos sponsorisées, mais les vrais journalistes, les purs de dur, d'aller mener l'enquête pour voir si Snapchat respecte bien cette règle-là. Mais moi, ce qui me fait dire qu'ils le respecteront, c'est qu'ils ont tout intérêt d'un point de vue marketing. C'est hyper intéressant pour Snapchat d'avoir un bouton login. Pour l'instant, il y a déjà 3 gros services qui vont l'utiliser. J'ai vu qu'il y avait Patreon, qui est un peu le Tipeee pour le reste du monde. Il y avait Patreon qui allait l'avoir. Et il allait avoir... Merde, je les avais soulignés pourtant. Pourquoi ça les a désoulignés? Donc ils sont où? Bon, j'y vois plus rien. Je sais qu'il y a Patreon qui vont l'avoir au tout début. Ah oui, Tinder. Donc c'est quand même un gros service. Tinder, Patreon et Postmate, que moi je connais pas bien, qui vont utiliser le login. Ce qui est vachement intéressant d'un point de vue marketing pour Snapchat, c'est que d'avoir un login Snapchat en le merchandisant en disant « ce login vous protège mieux au niveau de la vie privée que celui de Facebook », ça va donner probablement envie à certains de rouvrir ou de réutiliser Snapchat, peut-être. Est-ce que vous, ça vous donnerait envie de réactiver votre compte Snapchat éventuellement pour avoir une alternative au login de Facebook? C'est plutôt l'inverse, c'est typique et le Patreon, oui, un peu, oui. Enfin, Patreon marche en France, le problème, c'est qu'ils sont en dollars, mais... Non, ça vous donne pas trop envie de revenir. Non, mais vous êtes perdu pour la pause, pour la cause. Je ne pense jamais l'ouvrir. C'est un truc de jeunes. Bah, de moins en moins, parce que même les jeunes désertent un peu. Oui, c'est vrai, Laurent Ruquier a des parts de Tipeee et le fils de Jean-Jacques Goldman aussi, je crois. C'est même le fondateur. Vous pouvez aller voir. Je peux vous le dire parce que je pense que c'est public, puisqu'il me l'a dit. Mais vous avez aussi le YouTuber, il est actionnaire Tipeee, Y penser, il est actionnaire Tipeee aussi, je crois. J'utilise pas Snapchat, etc. Oui, c'est la même boîte que My Major Company, en fait. On est en train de faire 2 trucs croisés. Hein. Il y en a qui sont partis sur Tipeee, d'autres sur Snapchat. Bref, en tout cas, moi, je le souhaite, ne serait-ce que pour des raisons de diversification des réseaux sociaux, que Snapchat survivent à la mauvaise passe qu'ils ont, ils sont encore loin d'être perdus. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Snapchat. Hein. Et effectivement, ça serait quand même un truc pas mal pour Snapchat d'avoir ce login. Je pense que c'est un bon moyen de rester d'actualité, quoi. Identification Snapchat sur Tipeee pour ou contre. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien que vous puissiez vous loguer sur Tipeee. C'est surtout Marion qui aimerait bien que vous arriviez à utiliser le même mail de partout. Parce que alors, les gens qui ont un mail différent entre Tipeee, le Slack, leur Twitter, machin, on n'arrive jamais à les contacter. C'est une horreur pour Marion. Elle passe quasiment un quart d'heure sur certains d'entre vous pour essayer de renouer les fils, quoi. Et puis les gens, ah ben je sais pas, j'ai perdu moi mon compte, celui que j'ai fait mon Tipeee. Oh je sais plus, j'ai dû utiliser poubelle 646. Ah mais non, j'ai plus le mot de passe. Hein. Si vous voulez avoir des comptes mail différents, soyez cohérents. Mais si vous prenez un Tipeee, prenez pas un junk mail que vous perdez derrière. Ouais, elle s'occupe bien de vous, mais... voilà, essayez de lui simplifier la vie parce que Marion, elle fait ça en plus de son boulot dans la journée. Elle a passé quand même des soirées à s'occuper des Tipeee. On peut vraiment la remercier. Moi, c'est un boulot que j'aurais pas le temps de faire. Donc, elle fait un boulot énorme et je ne donnerai pas de nom, mais certains ne lui facilitent pas la tâche. Entre les gens qui changent les montants de Tipeee tous les mois, bon, je vous en veux pas, mais réalisez quand même que nous, ça nous oblige à faire des manuels tout le temps, quoi. Soyez gentils, sinon c'est Jérôme qui prend. Un petit peu. Disons qu'après, elle est de mauvaise humeur. Évitez effectivement de changer le montant de votre Tipeee 3 fois par mois, quoi. Surtout si vous le changez et que du coup ça vous donne accès au Slack et plus accès au Slack. Parce que je vous rappelle que Marion fait manuellement tous les accès au Slack. C'est à rien d'automatique. Hein. Allez, on termine. Ouais, on termine. On va parler de Quant, justement. Non, parce que je peux vous dire que si Marion craque et qu'elle arrête de faire ça. Ça va être compliqué pour Nowtech. Donc, si ça vous amuse de faire tomber Nowtech, c'est votre problème à la limite. Hein. Mais je pense pas que ça soit votre but. J'espère en tout cas. Allez, dernier sujet, on va parler de Quant. Quant, effectivement, avait un certain nombre d'annonces majeures pour ce moteur de recherche français, mais européen surtout. Et c'est le positionnement qu'ils veulent avoir. Ils vont lancer énormément de nouveaux services. Quant Med, Quant Pay, Quant Mail, Quant Maps, Quant Sport, objectif, concurrencer sérieusement Google et devenir le moteur de recherche d'une Europe en quête de sa souveraineté numérique. C'est vrai que effectivement, l'objectif maintenant de Quant, et ils mettent les moyens pour le faire, c'est de devenir un environnement sécurisé global, une vraie alternative à Google sur des services comme le mail, les maps, etc. Tout en sachant que Quant se positionne comme le service, moteur de recherche, plus tout un tas de services, le Google qui respecte la vie privée et la protection des données, puisque Quant ne récolte et ne traite aucune donnée personnelle sur ses utilisateurs, puisqu'il ne se, il se finance pas vraiment avec de la... Il se finance avec de la publicité, mais elle est non ciblée. Si vous utilisez Quant... Vous aurez de la pub, mais elle n'aura pas forcément grand-chose à voir avec qui vous êtes. Et il fonctionne, et il se finance aussi beaucoup par le lien d'affiliation. Si vous achetez un produit à travers Quant, ils vont toucher un pourcentage sur les ventes quand vous êtes dans Quant. Mais du coup, ça leur permet de ne pas avoir un business model lié à la collecte et la vente de vos données personnelles. Ce qu'il faut savoir... Oui, après, il y en a d'autres hein, que Quant. Hein, il y a DuckDuckGo et tout. Quant, moi, finalement, je trouve ça pas mal. Et je commence à l'utiliser de plus en plus, hein, moi, personnellement. 15 ans de retard, t'es un peu méchant, Alexis, quand même. Ils n'ont pas les moyens de Google, ça, c'est sûr. Mais ils essayent de se donner vraiment la peine. Moi, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, mais c'est quand même une vraie alternative à Google si on se donne un petit peu la peine. Vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes résultats que Google, vous n'aurez pas la même interface, ce n'est pas aussi propre. Mais si vous êtes à cheval sur le respect de la vie privée, ça vaut le coup d'essayer, et d'essayer régulièrement, parce que certains ont une vision de compte d'il y a un an. Hein. En tout cas, Quant, aujourd'hui, c'est 164 personnes et ils espèrent faire un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2018. L'année dernière, ils ont fait 3,5 millions d'euros. Pour le savoir aujourd'hui, ils ont 70 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui fait que Quant vient de rentrer dans les 1000 sites Internet les plus consultés au monde. Donc, ils ont la place 900. Ils sont en bas, mais c'est pas mal déjà. Ah, il était où le chiffre? Mais pourquoi j'ai des trucs qui ont disparu dans mes trucs surlignés? C'est pas possible. Ah oui, à la 982e place. Donc, ils ont pris plus 900 places en un an. Ce qu'il faut savoir. C'est que leur moteur de recherche est effectivement maintenant décliné. Ils ont des moteurs thématiques, Quant Junior, Quant Game, Quant Musique, Quant Sport. Ça risque d'être très important, effectivement, avec le mondial de foot. Mais plus intéressant, en septembre, à mon avis, ils vont lancer Quant Mail, Quant Maps et Quant Pay. Donc des services comme on connaît chez Google. De mail, donc plutôt que de passer chez Google pour vos mails, ça peut valoir le coup d'essayer Quant pour que vos données personnelles soient mieux protégées. Quant Maps, donc pour se diriger, une alternative à Google Maps, et Quant Pay, une alternative à Apple Pay ou tous les autres systèmes de paiement. Ça devrait arriver à partir de la rentrée, tout ça. Donc, si vous avez envie d'essayer Quant, et d'autres, hein, dans la chatroom, ça beaucoup parle d'Ecosia, etc. C'est toujours intéressant d'aller essayer d'autres solutions que la solution de facilité. Effectivement, Quant, ils viennent de déménager. Ils ont des nouveaux bureaux à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose presque de militant à utiliser Quant ou d'autres systèmes. Hein. Je ne veux pas faire du placement produit à outrance pour Quant. Que ce soit Ecosia, d'autres, c'est toujours bien d'ouvrir ses horizons et d'avoir une certaine cohérence dans ses propos. Si vous êtes à cheval sur la protection de vos données personnelles, ben, il y a un moment, il y a des alternatives qui existent. Mais c'est un peu comme on va dire, la nourriture saine à ses débuts, le fameux bio. Les débuts du bio, moi, j'ai connu. Vous aviez que des produits qui étaient moins bons que les produits pas bio. Mais il y avait un côté militant à manger bio. Maintenant, tu as des produits en bio qui sont meilleurs. Alors, je ne devrais pas prendre le bio comme exemple parce qu'il y a du mauvais bio aussi, hein, pour la santé. On le sait maintenant. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, voilà, il y a peut-être une période où les produits sont un peu plus rustiques que le produit dominant. Mais si on est vraiment militant, notamment pour la protection de données, il faut avoir une certaine cohérence. On ne va pas utiliser Google en naviguant. J'ai l'impression d'être un hippie si j'utilise Quant. Ouais, mais au moins, voilà, faut pas se plaindre que ces groupes soient trop gros si on les utilise tous. En se disant qu'il n'y a pas d'autre choix. Pour une fois que là, on a un choix, et c'est un fait, ils sont français, mais enfin, on ne va pas être chauvin non plus. Ils sont européens, Quant. Et aujourd'hui, on voit que l'Europe commence à dire, ben, développons nos alternatives afin d'être moins soumis aux décisions des Chinois et des Américains. Et ben, il faut bien commencer par quelque part. Donc, on peut toujours se moquer de nos systèmes européens qu'on essaye de lancer parce qu'on est tout petit, on est tout pourri, machin, c'est l'Europe, on est tout nul, là, 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 là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourquoi on n'aurait pas des services européens? Pourquoi? Pourquoi pas? Le Parlement devrait rendre obligatoire compte. Ouais, mais ça serait déloyal par rapport à d'autres qui essayent de faire la même chose. Voilà, en tout cas, si vous hésitiez à tester au moins Quant, à vous le mettre en moteur de recherche alternatif, ça va être le moment. Et j'avoue que j'irais bien voir ce qu'ils vont faire avec Quant Mail, parce que ça m'intéresserait assez. On utilise Quant d'un côté, mais on met des Google Home. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu veux être cohérent sur la protection de la vie privée, tu ne mets pas un Google Home chez toi, quoi. En tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est que pour Google, pour Quant Mail et Quant Maps, ça devrait arriver en septembre ou dans ces eaux-là. Oui, je connais Vivaldi, le navigateur alternatif. Bah, pour l'instant, ils n'ont pas terminé à la Silicon Valley. Donc, à se dire que les bons projets français terminent forcément à la Silicon Valley. D'abord, il faut savoir qu'ils peuvent ouvrir des bureaux à la Silicon Valley, ça ne veut pas dire qu'ils y vont. Vous savez, il existe des boîtes françaises qui ont des dimensions internationales, hein, je vous le dis quand même. Et je vois, par exemple, Shadow, ils montent des bureaux à la Silicon Valley, mais ça ne veut pas dire que ça devient une boîte californienne. Petite astuce sous Quant, mettez point d'exclamation G pour faire une recherche sur Google. D'accord, directement dans le moteur de Quant, on peut faire une recherche sur Google. D'accord. Voilà en tout cas pour les news pour Quant. Des gens fort sympathiques pour les avoir rencontrés la nuit du hack. Et c'est un projet qui prend une autre ampleur, hein, là. Une entreprise qui prend une autre ampleur avec le lancement de tous ces services. Voilà, c'est la fin de ce Techscope. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour l'écouter. J'espère qu'il vous a été agréable. Pour ceux qui s'en vont, je vous souhaite un bon week-end. Pour les autres, je vais prendre pas beaucoup de questions parce que je suis un tout petit peu en retard et j'ai beaucoup de choses à préparer pour mon interview du matin. Il n'y a pas de questions Platinium, mais si vous avez des questions quand même ce matin, je vais prendre le temps pour vous répondre. Donc c'est le petit vide ton fac du matin. Pour ceux qui auraient des questions à me poser, y en a-t-il qui ont des questions à me poser? Sinon, je m'en vais. Hein. Tu te rappelles les croque-monsieur à l'hôtel avec... Oui. Oh là, quelle catastrophe. Moi, je serai à Grande Canarie lundi. Ah bah, tant mieux pour toi. Quel MacBook Pro choisir? Bah, celui qui va bien par rapport à ce que tu as à faire. C'est un peu con comme réponse, mais... Ta question, elle est trop globale. Un MacBook Pro, ça dépend ce que tu fais dessus. Peut-on associer une souris Bluetooth à iOS? Non. Non. C'est justement un des problèmes qui fait que je ne vous conseillerais pas, même si Shadow marche sur iOS et donc sur un iPad, un jeu qui se contrôle avec un paddle, ça marche très bien. Un jeu où il faut obligatoirement la souris, non. Ça vaut le coup d'acheter un vieil argentique d'il y a 50 ans? Oui, si ça t'intéresse. Et oui, n'oublie pas quand même, par contre, que tout ce qui est contenu péloche, faire développer ses photos, ça coûte très cher hein, maintenant. Donc l'investissement ne va pas être tellement dans le boîtier, mais tes composants, tes consommables. Salut, j'étais en stage chez Snips. Il faut un assistant vocal connecté qui respecte la vie. Oui, Snips, effectivement, nous, on les a vus à VivaTech. Et c'est assez intéressant. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, Snips. C'est un assistant vocal qui respecte la vie privée. Shadow plutôt sur Android, oui. Mais j'ai tendance à vous dire que pour moi, le truc idéal pour utiliser à fond son Shadow, c'est une Surface Pro. Et vous pouvez prendre le modèle le moins cher. La Surface Pro, c'est topissime pour Shadow. Parce que du coup, vous avez vraiment et la mobilité et un vrai PC quand même. Le clavier, la souris, vous pouvez le brancher sur un grand écran. C'est pas mal du tout, quoi. Le Tipeee en direct du studio hier, bah écoute, c'était très bien. Tu l'as raté. Je vous rappelle que les lives privés, les jeudis Tipeee, le lien, il est dans Tipeee. Hein. Il faut que vous connectiez à votre Tipeee. Hein, c'est une interview que je fais aujourd'hui. Je vais poser des questions à Emmanuel. Jean-Pierre, sur la question des multi-écrans, ils répondent tous les jours hein, là-dessus. Non, ils n'y sont pas encore. Et c'est des questions, en fait, la hotline Shadow pourra te répondre. Je pense que je vais garder des questions à Emmanuel. Plus... Je lui poserai peut-être la question du multi-écran, mais plus dans... Est-ce que ça arrive un jour ou pas? Ce qu'il faut savoir, moi, le multi-écran, j'en discutais avec quelqu'un, ça dépend. Si tu as besoin d'un multi-écran uniquement pour afficher d'autres données que celles que tu as sur ton Shadow, moi, je conseille plutôt d'avoir une tablette. Parce que tu vas pomper de la bande passante inutilement en voulant un affichage sur un deuxième écran, en fait. Donc, en attendant, moi, je sais que, voilà, ça ne me gêne pas du tout d'avoir un seul écran sur Shadow parce que j'utilise ça comme deuxième écran. Est-ce que tu conseilles d'attendre d'acheter un Mac? Oui, attends septembre, si tu peux, attends septembre. Attends les nouvelles annonces. Oui, je conseille plutôt ça. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Une interview de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle t'intéresse? On m'en a déjà proposé, je ne sais pas si c'est avec lui. Non, pas forcément, parce que je pense... Autant Shadow PC a l'air de beaucoup intéresser ma chaîne, autant tous les trucs sur les startups, intelligence artificielle. Regarde le nombre de vues que j'ai fait sur toutes les interviews de Futur en Scène. Bah, ça n'intéresse pas les gens, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que je ferai... Parfois, je ferai des trucs... qui n'intéresse pas les gens, parce qu'il faut ou j'aurais... Donc peut-être, envoie-moi un mail si tu es en contact avec, mais... Le nombre de tipeurs augmenté, on va dire que ça stagne. Le nombre de tipeurs, mais la somme stagne. Il y a déjà l'offre de tarifs selon type de machine. Non, pas encore, Vincent. Comment va Marion? Bah écoute, ça va, elle travaille. Là, elle est au boulot, je pense. Tu sais où je peux trouver deux lentilles convergentes 25 mm pour un casque de réalité virtuelle? Alors là, non, aucune idée. D'où tu peux trouver des lentilles convergentes? Ça n'intéresse pas toute ta communauté. Bah, écoute, je... Vu la faiblesse du score qu'on a fait, par exemple, avec les interviews de Futur en Scène l'année dernière, même mon noyau de communauté, ça ne les intéresse pas. Je ne sais pas, mais la vidéo, elle a fait 2 ou 3 000 vues, quoi. C'est une de nos pires vidéos en termes de vues. Je vais te dire, je vais essayer de trouver. Donc, c'est vrai que même moi, elle m'avait vachement intéressé à faire et je pensais que ça intéresserait plus les gens. Mais a priori, non. On a fait 3782 vues. Pour moi, aujourd'hui, une vidéo qui a fait moins de 10 000 vues, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Hein. Et on a plein de vidéos qui ont fait moins de 10 000 vues. Ça veut dire qu'elle est... Elle est tombée un petit peu à côté quand même. Soit par le choix du sujet. Ça, et encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des vidéos. Même, il y a des vidéos, je m'en fous qu'elles feraient des vues. Je les ferai quand même. Mais dans mon choix de sujet, et vu le peu de temps que j'ai pour les différentes vidéos que j'ai à faire, vous voyez, cette année, on ne va pas à Futur en Scène. C'est une perte de temps pour nous. C'est con parce que c'est intéressant, mais pour l'instant, ça n'intéresse pas notre public. Alors, petit à petit, on l'amènera à ce... Par exemple, de l'autre côté, la nuit du hack, où on a fait très peu de vues la première fois qu'on en a parlé. Ça a l'air d'intéresser le plus. La nuit du hack, qui est généralement des vidéos qui sont peu regardées. Là, c'est à plus de 10 000, je crois, la nuit du hack de l'année dernière. Donc la nuit du hack, ça vous intéresse déjà plus. Petit à petit, de toute façon, j'essaye de vous faire sortir un peu du test tech pur et dur. Regardez smartphone. Oh, regardez la finition. Il y a du verre derrière et devant. Oh, la finition d'un aluminium. C'est impeccable. Ah, ils ont fait vraiment des efforts pour le prix. Enfin, vous voyez, le test. Je me moque un peu des tests de smartphone. Mais j'ai tellement l'impression de faire ça à chaque fois maintenant. Ça, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas y avoir des tests sur la chaîne. Il y en aura. Mais j'essaye petit à petit de vous amener à des contenus, plus reportages, des interviews. Mais vous ne suivez pas toujours. Hein. Je dis vous, je m'adresse au sens large à mes 120 000 abonnés de la chaîne. Enfin, ceux qui sont abonnés et qui regardent. C'est-à-dire moins de la moitié de 120 000. Et encore ceux qui sont abonnés et qui ont mis la cloche. Ce qui est à peu près un dixième de la moitié des 120 000. Bref, voilà, ma communauté. Oui, sachant que notre objectif, c'est quand même 200K à la fin de l'année. Donc, c'est bien, mais il faudra que ça s'accélère un petit peu, cette histoire. L'objectif fixé, on a deux objectifs. C'est, y en a un qui est extrêmement ambitieux, mais il faut être ambitieux. Ça serait de doubler le Tipeee. Mais ça va être chaud. Et l'autre, c'est de doubler notre audience. On a été à 100 000 en janvier, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il faut faire des vidéos d'iPhone. Ce serait facile. Mais tu sais, je ne choisis pas la voie de la facilité. Tu sais, je ferais Apple sur Fortnite, mon chasse des habits à chaque kill. J'aurais déjà doublé le nombre d'abonnés à la chaîne. Mais ce n'est pas forcément le public que j'ai envie d'avoir non plus. C'est là où je suis un peu pète-couille. J'ai envie d'avoir un chouette public. Ah non, non, j'achèterai jamais des abonnés. Jamais, jamais. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point les vidéos qu'on fait attirent un certain type de public. Et notamment, par exemple, les vidéos d'iPhone, oui, ça attire des gens. Mais il y a des gens que je ne préférais pas les attirer, en fait. Rappel de mettre un pouce. Mais Yannick, on le met à la fin de chaque vidéo, hein, le pouce. Mais vous écoutez même plus. Vous ne le faites pas. Vous êtes des flemmards. Vous êtes des gros flemmards. YouTube, Tipeee par rapport à YouTube. YouTube représente aujourd'hui 5%. Entre 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. Tipeee représente facilement entre... Avec les vidéos sponso, c'est en train de changer. Mais si j'exclus les vidéos sponso, Tipeee représente à peu près 70% de mon chiffre d'affaires. Et YouTube, 10%. C'est à peu près le ratio. C'est bien pour ça que je ne suis pas obsédé par l'audience. Hein. C'est que, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose sur mes revenus YouTube. Ah oui, Tipeee, c'est notre principal chef. Alors, c'est en train de changer avec les vidéos sponsors, évidemment. Et bien évidemment qu'on fait beaucoup plus de chiffres d'affaires avec des vidéos sponsors qu'avec Tipeee. Mais je ne pourrais pas faire des vidéos sponsors comme je l'ai fait si on n'avait pas le pilier de Tipeee. C'est un pilier indispensable pour faire un socle. Mais Tipeee, à mon avis, ne sera jamais qu'un socle. On pourra pas, on peut pas faire grossir un Tipeee plus que ça. Enfin, énormément. Bref, il faut que j'y aille. Là, justement, je vais être carrément en retard. Je vous salue bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle de mettre des likes à toutes les vidéos que vous likez. Quand vous aimez un créateur, soutenez-le. Likez sa vidéo. Hein, je devrais faire un t-shirt. C'est vous.